Bonjour, la Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir pour cette deuxième journée de colloque qui portera sur les espaces de la médiation. Nous allons commencer avec deux conférences. La première réalisée par Anne-Marie Bertrand, qui est historienne, conservateur de bibliothèque et directrice de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, l'ENSIB. Puis, c'est Christian Torel qui parlera des libraires et des pratiques professionnelles et des formations. Donc, les deux conférences traiteront de ces thèmes. Ensuite, nous aurons un petit temps de questions et d'échanges avec le public à la suite de ces deux conférences. Voilà, Anne-Marie.
Merci, bonjour à tous. Ma conférence n'a pas de titre dans le programme, mais je lui en ai donné quand même un. Ça s'appelle « Médiation, formation, réflexion et interrogation ». C'est presque un haïku. Je remercie la BPI de m'avoir invité à participer à ce colloque et ce faisant d'avoir signifié que, de son point de vue tout au moins, les bibliothécaires sont des médiateurs de l'écrit. Bon, je plaisante. Tout le monde sait que les bibliothécaires sont des médiateurs de l'écrit. Tout le monde, sauf la presse. Et quand elle s'intéresse à cette question, ne mentionne que les médias, c'est-à-dire elle-même, les critiques littéraires qu'elle brocarde, à la rigueur les libraires. Tout le monde, sauf les usagers, dont la moitié ne demande pas d'aide aux bibliothécaires quand ils cherchent quelque chose de précis. Mais en même temps, ces mêmes usagers manifestent une attente d'accompagnement. Il faudrait mettre des pubs dans les boîtes aux lettres avec la liste des nouvelles acquisitions. Il faudrait proposer des critiques des livres disponibles. Il faudrait faire des vitrines avec des livres qui seraient changés régulièrement. Tout le monde le sait, sauf les enfants. Je cite. Est-ce que vous regardez parfois les livres qui sont présentés de face, comme ça, pas ceux qui sont dans les bacs, ceux qui sont en hauteur? Ah, s'ils les mettent comme ça, ça veut dire que c'est des livres nuls. Pourquoi? Parce qu'ils les mettent comme ça pour qu'on les regarde. Ça se voit qu'ils sont nuls. Et donc, conclut Christophe Evans en analysant, ces entretiens, les jeunes usagers des sections jeunesse en viennent souvent à développer des stratégies d'évitement destinées à désamorcer les intentions pédagogiques ou culturelles des adultes. Tout le monde le sait, sauf les bibliothécaires, pour qui l'activité de conseil, d'accompagnement, d'accueil est quelquefois oubliée, voire niée, je cite. Je ne définirai pas du tout mon rôle comme un rôle de conseil, ici en tout cas, pas du tout. Je le déplore assez peu d'ailleurs, car quelquefois c'est difficile. Et c'est peut-être pas dans mes attributions de conseiller vraiment un ouvrage par rapport à un autre. Fin du préambule. Au-delà des images, des représentations, des stéréotypes, essayons de rétablir un semblant de rationalité et d'analyse sur le contexte social et notamment sur l'évolution culturelle de la transmission et de l'autorité, autorité au sens de auctoritas. Le poids de l'auteur, de son discours, de l'acte de rendre public un discours, un texte, une œuvre, appuyé sur, validé par le nom de l'auteur. Aujourd'hui, dans ce monde d'Internet où règne, comme l'a rappelé hier Robert Damien, où règne l'immédiateté, l'éphémère, les pseudonymes, où règne, comme le dit Daniel Bougnou, une inculture du court terme et de l'impatience. Dans ce monde de l'Internet, l'autorité se confond avec la notoriété ou avec le nombre des commentaires, des contributeurs ou des appréciations. Tout devient opinion. C'est ce que hier Robert Damien appelait la loi des préférences et des recommandations. Comme l'opinion règne et que toutes les opinions se valent, la position de surplomb qui était celle du prescripteur, de l'expert, du professionnel, devient politiquement incorrecte. On en vient à considérer, je ne crois pas forcer le trait, toute politique d'offre comme illégitime. Illégitime non pas culturellement, mais socialement. L'offre signifierait le mépris, la domination, l'imposition d'une production forcément éloignée des classes populaires. Ici, un court développement sur l'évolution de l'environnement informationnel. Deux points. Premier point, le passage de la prescription à la valorisation et la médiation. Deuxième point, l'investissement dans la technique. Reprenons. Jadis, le bibliothécaire était un prescripteur de lecture, un professionnel de la lecture d'autrui, disait Jean-Pierre Rioux. Il y avait des bons livres, de bonnes lectures et des lecteurs méritants. Sous la pression d'une demande plus nombreuse et plus éduquée, Le mot d'ordre est devenu aujourd'hui l'accès, donner accès, rendre accessible. Et c'est le temps où, selon la formule d'Anne-Marie Chartier et Jean Hébrard, lire est devenu un verbe intransitif. Il faut lire. Mais lire quoi? C'est devenu une question superfétatoire. Internet et l'information numérique ont provoqué, en rendant tout, enfin, presque tout, accessible depuis n'importe quel ordinateur, un accès privé, un accès domestique à l'écrit. On est donc entré dans l'ère de la désintermédiation. Et s'il n'y a plus d'intermédiaire, si la relation est immédiate, que devient le médiateur? Que devient la médiation? Donc c'est là qu'est le lien avec mon deuxième point, le numérique. Le numérique a été très vite intégré dans les bibliothèques, hein, comme accès, comme collection, comme ressources, comme service. C'est un outil qui a contribué à développer, chez les bibliothécaires, développer et légitimer des compétences techniques. On connaissait autrefois les bibliothécaires érudits qui ne quittaient pas leur bureau parce qu'ils s'occupaient d'ouvrages anciens. On connaît aujourd'hui des bibliothécaires qui ne quittent pas leur bureau parce qu'ils sont happés par leur écran et qui s'occupent de sites web ou de bases de données. La profession de bibliothécaire, on le sait, est volontiers technocentrée. Elle est aussi volontiers ethnocentrée, mais c'est un autre sujet. Et donc, les activités de médiation me semblent prises en tenaille, entre deux feux, entre le relativisme culturel d'un côté, entre la technique de l'autre. Et pour autant, ces activités de médiation sont loin d'être absentes des bibliothèques, car la médiation est nécessairement partie prenante du métier de bibliothécaire, qui est d'abord et avant tout un métier de service. Et donc, je présente une esquisse de paysage de la médiation dans les bibliothèques. Pour aller vite, 5 rubriques sans entrer dans les détails. Premier point, l'accueil. Dire bonjour, accueillir, être accueillant, souhaiter la bienvenue, orienter dans les lieux, il y a 2 étages, orienter dans l'institution, l'inscription est gratuite, mettre de l'écoute, mettre de l'humain, mettre de la chaleur humaine dans le dispositif compliqué et pas forcément toujours accueillant qu'une bibliothèque. Deuxième point, l'orientation, le décryptage. La bibliothèque est un endroit codé, un peu mystérieux, voire étranger. Depuis le plus basique, où sont les toilettes? Dieu sait si les bibliothécaires se plaignent d'être soumis à ce genre de questions. Du plus basique au plus courant, où sont les livres sur les Indiens d'Amérique? Ou au plus pointu, je cherche l'édition originale de La Princesse de Clèves. Il s'agit de rendre compréhensible l'organisation spatiale et intellectuelle de la collection de la bibliothèque, des documents qui sont proposés. Troisième point, l'accompagnement. L'élève qui cherche des documents pour son exposé, le lycéen qui est en panne d'idées pour sa dissertation, l'usager qui pose une question, dont il faut comprendre le vrai sujet et le niveau d'information adéquate, les informations dont il a besoin. Je cite, après d'autres, volontiers l'expérience vécue d'un enfant qui venait d'être élu délégué de classe et qui demandait à la bibliothécaire les discours de De Gaulle pour y trouver l'inspiration. Comment se servir du site Légifrance, ou trouver des documents iconographiques sur la chute du mur de Berlin, le discours d'Obama sur la question raciale aux États-Unis, l'auteur de Retour à Reims. Voilà donc quelques-uns des multiples aspects de cet accompagnement. Quatrième point, la formation des usagers. L'idée a depuis longtemps gagné les bibliothécaires que, plutôt que donner la réponse attendue, il était préférable d'expliquer la bonne façon de chercher, donner le filet plutôt que le poisson, pour reprendre une image connue. Et la formation des usagers est aujourd'hui une activité très répandue dans les bibliothèques. Formation au classement des ouvrages, formation à la recherche dans un domaine précis, formation à la recherche sur Internet, etc. Cinquième point, le conseil de lecture. L'activité même de conseil n'est pas prisée chez les bibliothécaires, j'y reviendrai. Mais tel M. Jourdain, ils en font implicitement, voire malgré eux. En choisissant les documents qui entrent dans la collection, c'est-à-dire en achetant certains ouvrages, en refusant ou en s'abstenant d'en acheter d'autres, en mettant en valeur les uns plutôt que les autres, en animant des clubs de lecture, en invitant tel ou tel auteur ou éditeur, en organisant des débats, en proposant des listes, des coups de cœur, des bibliographies, des bibliothèques éphémères, en produisant, en bref, une médiation diffuse, voire invisible. Par contre, le conseil explicite semble plus rare, sauf sans doute dans les petites bibliothèques où les bibliothécaires connaissent bien individuellement les usagers. Dans les grandes médiathèques où on compte les entrées par milliers tous les jours, dans ces grandes médiathèques où l'autonomie de l'usager et l'anonymat sont de règle, l'exercice de conseil est évidemment très difficile. Alors, la formation à la médiation. Donc, ces activités, accueil, orientation, accompagnement, formation, ne s'improvisent pas. Pour autant, peut-on et comment y former? Alors, ici, presque en vrac, quatre réflexions. Le savoir-être. L'accueil, la bienveillance, l'abord agréable, le souci de la médiation sont, disent beaucoup de bibliothécaires, un état d'esprit, une manière d'être, un savoir-être. En tant que tels, ils sont considérés comme participants de la personnalité de chacun, plutôt qu'une technique ou un savoir-faire à acquérir. Du coup, les insuffisances en la matière sont difficiles à relever, puisque c'est la personne même, sa personnalité, qui est en cause. Critiquer les capacités, les compétences d'accueil d'un collègue ou d'un collaborateur, c'est le mettre en cause, lui, elle, en tant qu'individu. Et d'où, et c'est complémentaire, les dénégations sur la nécessité de former à cette activité. On est médiateur, N-A-I, accent circonflexe, T, médiateur. On ne le devient pas. C'est une opinion qui est très largement répandue chez les bibliothécaires. Et du coup, on n'a pas besoin de formation. Et du coup, la formation même, l'idée même de formation n'est pas possible, disent-ils. Deuxième point, l'avis des internautes. J'ai regardé l'autre jour sur Amazon les ouvrages de Foucault, Surveiller et punir, 4 étoiles et demie. Je ne suis pas sûre d'acheter 4 étoiles et demie, c'est pas suffisant. Je n'achète que des 5 étoiles. Bon, donc, nouvelle approche de la médiation, les meilleures ventes, le nombre des avis, les clients qui ont fait des recherches similaires ont également acheté. Il s'agit de créer de la familiarité, de la proximité, de la connivence. L'avis des pairs, et non pas du surplomb, hein, ce que je disais tout à l'heure sur l'autorité, la prescription. Donc une nouvelle éthique de l'interactivité. Faut-il et comment former à ça? Et former à quoi? Former à faire des faux chariots de retour. Hein, vous savez qu'on est sur le principe de la proximité de la connivence. Hein, les ouvrages qui viennent d'être rendus et qui ne sont pas encore remis en rayon, qui attendent d'être rangés, ont été empruntés par des vrais gens. Et donc, d'une certaine façon, il y a une prescription secondaire. S'ils ont été empruntés par des usagers, ils risquent d'intéresser d'autres usagers. Contrairement aux ouvrages mis en valeur par les bibliothécaires et qui, vous souvenez de cette citation d'enfants, qui évidemment sont nuls, parce que c'est évidemment des ouvrages qui ne leur conviennent pas, qui sont mis en valeur par les bibliothécaires. Former à créer des rubriques sur le site web de la bibliothèque, hein, des sites d'opinion, d'avis, de commentaires. Former à créer ou encourager un prix des lecteurs. Bon, pour ne rien vous cacher, on est un peu démunis, et sans doute plus que les libraires sur ce point-là. Troisième réflexion, la recherche sur texte intégral. Le référencement, les modalités même de référencement ont considérablement évolué, bien entendu. La facilité d'accès grâce aux moteurs de recherche fait que les accès par catalogue sont devenus vieillots, ringards, menacés d'une mort prochaine. La médiation doit donc trouver de nouveaux modes d'exercice. Quels outils mettre à la place des catalogues? Comment guider? Comment suggérer? Orienter? Comment le faire avec d'autres outils que l'opinion, avec un autre registre que la popularité? Des auteurs inconnus, des livres dont on ne parle pas, ont évidemment toute leur place dans les bibliothèques. Excusez-moi pour ces banalités. Quatrième point, la culture professionnelle. L'accueil, le face-à-face avec le public et donc la médiation ne sont pas les activités les plus valorisées chez les bibliothécaires. La recherche d'une légitimité scientifique les amène à mettre en avant plutôt des compétences, soit managériales, soit une expertise scientifique, voire une maîtrise technique. Le back-office continue encore aujourd'hui à être privilégié. Donc ces quatre réflexions en vrac dessinent un contexte. Et donc maintenant, mon développement sur la formation, qui tente de prendre en compte ces différents points. La formation à la médiation porte sur trois aspects, et puis j'aurai un codicile. Premier aspect, l'accueil. Malgré les réticences que j'évoquais, le savoir-être, la personnalité même du bibliothécaire, malgré ces réticences que j'évoquais, des formations à l'accueil se mettent en place de plus en plus nombreuses. Le besoin s'en fait quand même sentir. souvent des formations sur site. Des formations sont organisées dans telle bibliothèque pour le personnel de cette bibliothèque, mais aussi dans des structures de formation. Par exemple, Médiadis, Médiaquitaine proposent des stages, formation à l'accueil, bien vivre l'accueil du public en bibliothèque, adopter une attitude positive face à un conflit. Deuxième aspect de la formation aux compétences informationnelles. Alors, je traduis mal parce qu'on n'a toujours pas trouvé de bonne traduction. La formule anglaise, information literacy. Donc, on traduit maintenant, aujourd'hui, assez fréquemment par la formation à la recherche d'informations. C'est une activité très développée dans les bibliothèques universitaires, mais encore peu développée dans les bibliothèques publiques. Référencer, trouver, évaluer de l'information. Connaître les sources et les outils, savoir s'en servir, savoir y former ses usagers. Depuis 10 ans, existe à l'ENSIB une structure qui s'appelle Formist, qui a beaucoup fait avec son réseau de partenaires pour faire avancer cette activité, pour sensibiliser, évaluer les ressources, débattre et organiser des rencontres annuelles. Aujourd'hui, dans les bibliothèques universitaires, il s'agit d'une activité banale. En 2007, 29 000 heures de formation ont été délivrées à 136 000 étudiants, donc on n'est pas du tout dans le marginal. Pour autant, dans les bibliothèques publiques, ça démarre tout doucement, mais c'est évidemment appelé à se développer. Troisième aspect de la formation à l'entretien de référence. J'évoquais les discours du général de Gaulle. Il s'agit de reformuler la question, s'y adapter, adapter le niveau des réponses aux demandeurs, donner des pistes complémentaires. Et là aussi, les structures de formation forment à ce type d'activité. Et puis mon codicille, donc qui serait le quatrième aspect ou le troisième et demi sur la formation à la médiation. Et je veux parler là de la promotion. La promotion de certains textes, ouvrages, auteurs, collections, éditeurs, etc. Alors, évidemment, un outil qui prend de l'ampleur, le site web de la bibliothèque. Je prends quelques exemples rapidement. Un exemple que je trouve magnifique, le site web de la médiathèque de Saint-Herblain. Je vous suggère vraiment d'aller le voir. On y trouve des bibliographies, par exemple sur Lille, Le Bruit, Le Rire, Rome, Le Joueur. On y trouve des dossiers d'artistes, par exemple Étienne Delessert. On y trouve un catalogue enrichi, avec un partenariat avec Amazon. Donc, on trouve la couverture du livre, le résumé. Les personnes qui ont emprunté cet ouvrage ont emprunté aussi. Donc, tout un panorama, me semble-t-il, vraiment complet et intelligent en matière de suggestions ou promotions. Le site de la bibliothèque de Brest présente des coups de cœur des bibliothécaires, une liste pour les adultes, une liste pour les enfants, une liste de nouveautés, les travaux des comités de lecture. À Toulouse, on trouve là aussi des coups de cœur sur le site de la bibliothèque de Toulouse, coups de cœur jeunesse, coups de cœur ado, on trouve un portail ado, on trouve un nuage de tags romans. On trouve des sélections qui s'appellent Sélection Presto, 20 titres récents sur la société, 20 titres récents sur la littérature, 20 titres récents en matière musicale. Ils ont aussi un blog. Que faisiez-vous le jour où le mur est tombé? C'est peut-être ça qui a donné des idées à Nicolas Sarkozy. Le site de la bibliothèque de Lille, on y trouve des sélections thématiques, la NRF, Darwin, Pinter, Solzhenitsyn, Jean-Pierre Vernant, etc. On pourrait multiplier les exemples, ça aurait été mieux si je vous les avais projetés, mais vraiment, allez voir le site de la médiathèque de Saint-Herblain. Donc, je disais promotion, formation à la promotion, activité de promotion, on peut dire aussi sélection, parce que c'est une promotion collective, une promotion multiple, puisque c'est principalement des listes qui sont proposées. Il s'agit là, grâce à ce site web, d'outils, de techniques, même s'ils sont performants, voire séduisants. Mais le conseil, alors, pour finir, un petit développement sur le conseil. Comment apprendre à répondre à « qu'est-ce que vous me conseillez ?»« Qu'est-ce que vous avez dans le même genre ?»« Je cherche un livre sûr » ou « je ne sais pas quoi lire ». Je cite. Ça, c'est très difficile. J'ai horreur de ce genre de questions. Je dis « je ne sais pas, j'ai pas d'idée ». Mais enfin, c'est que pour la fiction, que pour les romans, en fait. Autre citation. Alors là, le pire, ce qui arrive souvent, c'est « je viens pas pour moi, je viens pour ma sœur qui veut des lectures ». Alors là, c'est le flou intégral. Ma sœur, elle a quel âge? Elle fait quoi? On n'en sait rien. Donc, de registre. Le documentaire, lire quelque chose sur la fiction, un roman. Dans le premier cas, celui des documentaires, il s'agit d'une connaissance à la fois du thème concerné et de la production éditoriale, ce que possède la bibliothèque sur ce thème-là. L'ENSIB organise régulièrement des stages thématiques. Il s'appelle un peu pompeusement « Épistémologie et paysage éditorial en ». Je dis pompeux, mais en fait, on aime bien ce titre-là. En 2009, on a fait des stages, par exemple, enfin, pas par exemple, je les cite tous, hein, physique-chimie, sciences religieuses, médecine, sciences juridiques, littérature anglophone, santé. D'autres structures de formation, comme Mediadis, proposent ce genre de stage, par exemple, sciences en bibliothèque. Évidemment, il ne saurait pas remplacer la curiosité intellectuelle et la culture générale des bibliothécaires. Dans le second cas, la fiction, c'est plus compliqué. Là aussi, la curiosité, la connaissance de la production, l'art de parler des livres qu'on n'a pas lus ou qu'on n'a pas forcément pas encore lus, de l'empathie, tout ça joue un rôle. Sur la production, il existe des ouvrages, des revues, des sites, des stages, là aussi, sur la littérature française, la littérature nord-américaine, la poésie. Mais je ne connais pas de formation spécifique sur cette activité qu'est le conseil de lecture en fiction. Comment suggérer des livres pour ma sœur qui veut des lectures ? Les goûts, les préférences entrent en ligne de compte. Et comment former à cette prise en compte ? Ça me semble très compliqué. Peut-être les libraires ont-ils là-dessus une réponse. Voilà, une esquisse de panorama sur la médiation et la formation, sur les questions qu'elle pose, et sans doute plus de questions que de réponses. Et on aura l'occasion d'en débattre ensemble tout à l'heure. Je vous remercie.
D'abord, un petit mot d'excuse pour ce retard, mais en fait, la médiation en haut a été pour moi un peu compliquée. On m'a envoyé à droite, à gauche, à l'ouest, à l'est. Et j'ai eu 5 minutes de retard, mais j'ai entendu du fond de la salle votre intervention. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses
nécessairement
en commun, oui. Alors, par contre, là, j'ai un souci de... Voilà. Comment je fais pour lire le texte avec le... Je vais attraper un torticolis. Bien. Je suis désolé. Je vais essayer de trouver d'abord ma position. C'est un peu bizarre. Je crois que je vais faire comme vous. Essayer de le mettre sur le côté. Est-ce que côté son, ça va comme ça? Ou c'est... Non, ça n'altère pas le... Si, un peu? Non, ça va? Voilà. Donc, on m'a demandé de plancher sur médiation et formation dans ce métier qui est le mien, qui est la librairie. Alors, je suis plutôt impliqué dans la vie politique de la librairie depuis... Je crois toujours, depuis une trentaine d'années, que j'exerce ce métier. Mais par contre, je n'ai pas de qualification du côté de la formation. C'est un certain nombre de confrères qui s'en occupent. Ceci dit, au sein du directeur du syndicat, et de loin, et surtout dans mon entreprise, c'est évidemment un sujet, un concept, un centre d'intérêt, presque une obsession de tout le temps. Mais je n'ai pas de spécialité en matière de formation, je ne fais pas, notamment pas partie de cet institut qui s'appelle l'INFL, Institut National de la Formation des Libraires, où, somme toute, quand même, de temps à autre, et même plutôt très régulièrement, j'envoie certains de mes libraires se former. Voilà, ceci posé. Peut-être ajouter, avant de commencer cette conférence, que je dirige une revue qui s'appelle Les Cahiers de la Librairie, qui en est à son 7e numéro, et que les questions de formation et des questions en général de l'évolution de ce métier, notamment, comme on dit aujourd'hui, à l'ère du numérique, ne me sont pas étrangères. Il y a déjà 2 numéros de cette revue qui ont été consacrés à des articles à l'occasion de tout ce qui est en train de pousser, d'évoluer, de charbonner. Voilà. Je commence. Le temps s'est accéléré, poussé par la puissance des microprocesseurs. Si les années 80 inaugurent celles des travaux sur la lecture, sur la réception, on ignore sans doute combien les progrès des industries du numérique viendront très vite solliciter toutes les professions du livre. Marcel Gaucher, qui fut l'un des premiers à employer le vocable de médiation Pardon, toujours est-il que c'est à ce propos, pardon, qu'il intervient dans le cadre du colloque Livre 2010 à Sciences Po en 2006. Cette conférence, nous l'avons reprise dans les cahiers de la librairie, le dernier paru, numéro 7. Marcel Gaucher ramène les questions qui se posent à la chaîne du livre à la crise générale des médiations qui concerne l'ensemble des structures, des institutions, des organisations qui remplissent une fonction d'intermédiaire entre la demande individuelle et l'offre collective au sein de l'espace public. Plus loin dans son propos, il affirme que rien ne désigne les professions de la chaîne du livre comme des cibles de première ligne, et pourtant, de manière sourde, de manière insensible, elles sont peut-être les plus profondément concernées par cette crise des médiations. La cause, dit-il, c'est Internet, média absolu, médiation qui abolit toutes les autres médiations, ou plus exactement, qui les rend inutiles. Fin de citation. Que s'est-il donc passé ? Avant de mesurer les implications sociales et culturelles prévisibles en librairie, avant de relever les principes fondateurs qui en font des librairies des carrefours indispensables, faisons un détour littéraire par la Suisse, à la fin du XIXe siècle, où s'édifie la vocation d'un libraire. J'ouvre les guillemets. Un beau matin, un jeune homme ayant plutôt l'air d'un adolescent entra chez un libraire et demanda qu'on voulût bien le présenter au patron, ce que l'on fit. Le libraire, un vieil homme très digne, dévisagea avec attention ce garçon qui se tenait devant lui un peu gêné et l'invita à parler. « Je veux être libraire, dit le jeune homme, c'est une envie que j'ai et je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher de la suivre jusqu'au bout. Je me suis toujours imaginé le commerce des livres comme quelque chose de merveilleux, un bonheur. Il n'y a aucune raison que j'en sois privé plus longtemps. Regardez, monsieur, comme je suis là devant vous, je me sens une extraordinaire aptitude à vendre des livres dans votre magasin, en vendre autant que vous pourriez souhaiter. Je suis un vendeur né, affable, vif, poli, rapide, parlant peu, décidant vite, comptant bien, attentif, honnête, mais pas non plus aussi bêtement honnête que je n'ai peut-être l'air. Je sais baisser un prix quand j'ai affaire à un pauvre diable d'étudiant, ça c'était avant la loi Langue, et je sais aussi le faire monter s'il ne s'agit que de rendre service aux riches. Je crois, malgré mon jeune âge, posséder une certaine connaissance des hommes. D'autre part, j'aime les hommes, si différents soient-ils. Je ne me servirai donc jamais de ma connaissance des hommes pour avantager l'un plutôt que l'autre, pas plus que mes concessions au pauvre diable n'iraient jusqu'à nuire à l'intérêt de vos affaires, monsieur. En un mot, sur ma balance de vendeur, l'amour des hommes sera en parfait équilibre avec la raison commerciale, laquelle me paraît aussi importante et nécessaire à la vie qu'une âme aimante et généreuse. Je saurai trouver le juste milieu. Soyez-en dès maintenant convaincus. » Dans ce qui constitue la première page du roman « Les enfants tannaires », Robert Walser, auteur de ce texte, élève deux des principes directeurs de la médiation du libraire, le commerce et la connaissance des hommes. Liaison, lien, médiation ne seraient que quelques-uns des termes encadrant les usages d'un commerce dont la vocation est de représenter au mieux un objet largement partagé par tous, le livre. Ce qui prélude au débat actuel sur le livre et ses mutations, c'est bien le sentiment de familiarité qui lie au livre chacun lecteur, quelle que soit son origine professionnelle. Le livre est familier, plus que tout autre objet de notre quotidien. Pour emprunter au Robert la définition du mot « familier » et l'appliquer au livre, on affirmera que le livre fait partie de la famille, qu'il est fréquenté assidûment, ceci dans une relation intime, que son usage est simple, habituel, son maniement facile. Cette fréquentation, cette familiarité donne à chacun un droit de regard, le libre exercice de sa singularité dans l'expression, la légitimité d'un point de vue, que tout cela soit ou non lié à une reconnaissance sociale de la lecture. Il me semble qu'une méprise se situe au nœud de cette ambiguïté. Internet est le lieu par excellence de l'expression d'un désir politique de reconnaissance du lecteur, hors des hiérarchies communes. Selon Marcel Gaucher, encore, l'internaute constitue ni plus ni moins la figure la plus avancée de l'individu pur dans notre monde, de l'individu sans appartenance et hors médiation, doté d'un accès universel à toutes les sources d'information et de la capacité opératoire de toucher le monde entier par ses productions intellectuelles sans intermédiaire. D'où viendrait dès lors à l'amateur internaute sa légitimité, pourrait-on se demander. Mais aussi bien, et ainsi que poursuit Gaucher, qui t'a fait éditeur, qui t'a fait critique, au nom de quoi es-tu justifié à vendre ceci ou cela ? Les mondes du livre sont faits d'amateurs érigés en spécialistes. Est-ce du fait qu'ils appartiennent à un secteur de production qui les lie aux œuvres et à leurs auteurs ? Dans l'espace à risque de l'édition et de la diffusion, rien d'autre ne qualifie les professionnels que leur identité, c'est-à-dire leur numéro CABIS sur le registre du commerce et leur existence économique. Pas de diplôme, pas de certification collective, comme c'est le cas en Allemagne. Tout et rien donc nous qualifie, nous, médiateurs du livre, éditeurs, libraires, distributeurs, diffuseurs. Seuls les bibliothécaires demeurent en devoir de passer des brevets d'aptitude et des concours. Il est vrai qu'ils échappent à la sanction économique, qui n'est pourtant pas toujours la plus sûre des validations, quand bien même elle serait celle du public. En écho à la lecture de Walser, et pour l'actualiser dans une forme malheureusement moins littéraire, je propose d'aborder successivement les questions de la création de l'assortiment, celle de la relation client, celle de la maîtrise culturelle, de la qualité du jugement. Au fin de déterminer s'il existe des éléments qui qualifieraient la médiation du libraire quand il donne à voir, donne à entendre, donne à lire, quand il forme donc et informe, une manière de parcours de la reconnaissance du métier. Donc d'abord la création de l'assortiment. Les transformations du marché du livre et ses acteurs depuis le début des années 90 ont eu des effets sur l'assortiment des librairies. Ces inflexions sont, entre autres, l'augmentation incontrôlée de la production, amenant à plus de 50 000 le nombre des nouveautés annuellement éditées et à près de 600 000 celui des titres disponibles. La transformation des pratiques de lecture, la baisse sensible du nombre des grands lecteurs, les mutations du lectorat scolaire et universitaire, la démocratisation du marché du livre. La concentration de la distribution et de la production entre les mains de quelques groupes dont la vocation n'est pas dans le seul secteur du livre, le renforcement du commerce du livre en périphérie et la concurrence nouvelle du commerce en ligne. Une relative stabilité du réseau des librairies indépendantes par un renouveau générationnel complète de manière plus optimiste ce tableau. Dans un univers professionnel dont les caractères d'indépendance en général se diluent, il convient de rapporter chacun de ces facteurs aux modifications du métier et en particulier aux conditions et à la réalisation de l'assortiment. Premièrement, la liberté de choix dans la multitude des publications est une aubaine pour le lecteur, un risque multiplié pour l'éditeur, une chance et une source de difficulté pour le libraire. À l'heure du commerce sur Internet, la charge d'un assortiment important est propre à limiter les fuites de la clientèle du libraire vers les espaces virtuels, certes, mais elle est aussi un danger pour ses finances. Deuxièmement, les exigences des grands lecteurs portaient un espoir de contamination par la qualité. Il faut constater que les exigences qualitatives du libraire ont dû suivre la diminution de celles du lectorat, malgré la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, ou pendant 20 ans de l'âge d'or du livre, le concours de la télévision. L'assortiment s'en ressent dans la majorité des librairies, comme dans les surfaces spécialisées. Ainsi, la densité moyenne de nos fonds s'en trouve-t-elle affectée? Troisièmement, la concentration des moyens de distribution ne favorisera pas l'ajustement nécessaire de la rémunération des librairies, qui manque toujours des 2 à 4 points de remise utiles à son développement, au maintien de ses fonds et des équipes adéquates. L'indépendance de certains acteurs, plus ouverts, est relative dans l'interaction qu'elle produit avec le réseau des libraires lorsque près de la moitié du chiffre des ventes est réalisé sur les deux plus grands groupes que sont Hachette et Interforum. L'indépendance d'un réseau de libraires repose sur l'indépendance des décisions de chacun, la liaison à l'équilibre de sa gestion. L'indépendance, c'est aussi n'avoir aucune ambition particulière en matière de rentabilité, aucune autre que propre à assurer un développement raisonné. L'assortiment est ainsi plus libre et cette liberté favorise le différencié. C'est bien dans l'assortiment, dans sa qualité, dans sa densité que se reflète l'identité du libraire. L'assortiment du libraire, associé à la compétence de son équipe et à sa disposition à établir des passerelles entre un fonds et un lectorat, sont des outils majeurs pour son avenir, notamment face à la vente en ligne. La librairie, le territoire et la carte. On va rentrer un peu plus dans le sujet. La somme des éléments, les livres, qui composent l'assortiment, n'est pas tout. S'il n'existe pas de médiation sans produits à médiatiser, encore faut-il savoir ordonner leur territoire de telle sorte que leur repérage en soit aisé et pertinent. La mise en relation des livres qui composent nos fonds, nouveautés comprises, est notre souci majeur. Même lorsque les éditeurs saturent les espaces des librairies sous le nombre des nouvelles publications, et c'est le cas tous les derniers trimestres de chaque année. Il n'existe pas d'assortiment idéal, en particulier dans le domaine des lettres, où la librairie doit composer entre l'ambition d'une offre et une volatilité des lectorats. Mais veiller aux cohérences dans un rayon, au maintien d'équilibre signifiant entre secteurs, à une densité répartie avec égalité, sont des enjeux d'efforts continus par tous les membres de l'équipe et si possible à l'unisson. Ombre blanche, chez nous, donc, depuis la réception jusque dans chaque rayon, il faut savoir classer les 110 000 titres qui constituent nos fonds. Savoir-faire, intuition, connaissance, information sont à l'œuvre pour diriger chaque titre nouveau vers son port d'attache et, si possible, le mettre en résonance avec d'autres, plus anciens. Si le visage général de la librairie, sectorisé, ne subit que rarement des modifications, on peut percevoir dans chacun des rayons des mouvements, des inflexions qui en modifient les détails quotidiennement. Des chemins qui guident le lecteur dans ces territoires en mouvement perpétuel, il faut dresser la carte et veiller à actualiser cette carte en permanence. Une signalisation efficace conduit sans peine le lecteur à l'objet de ses recherches, rayon, sous-rayon, thème, livre. La communication non-verbale n'est qu'un des moyens de guider nos lecteurs. À l'heure où la lecture des cartes routières fait place au guidage par satellite, il est troublant de constater que des clients de plus en plus nombreux ne savent pas se guider seuls dans la librairie et que le soutien du libraire leur est indispensable avant même qu'ils ne le sollicitent pour un conseil. Avant d'aborder le conseil, cette phase plus active du métier, on n'oubliera pas de citer trois techniques de communication encore non verbales à l'appui de ventes conseils, les tables thématiques, dûment estampillées et proposées à l'occasion d'une actualité, ou plus arbitrairement par le truchement d'un libraire ému par une lecture récente. Les petits mots, commentaires ou courtes critiques manuscrites incitatives, agrafées ou trombonnées sur les livres, il n'y en a pas chez nous. Mais il y en a beaucoup ailleurs et je pense que c'est très utile. Les vitrines, qui restent pour les trottoirs de nos rues, un enrichissement et une sollicitation pour les chalands. Ces vitrines qui furent un des arguments pour la promotion des librairies dans le combat pour le prix unique. Ces mises en scène, ces mises en relation sont en œuvre pour provoquer chez le lecteur ce qui me paraît être la fonction majeure de sa visite, c'est-à-dire trouver le livre qu'il ne cherche pas. Et j'insiste, je pense que c'est une des choses qui va vraiment nous séparer, heureusement, du service sur Internet, où je pense qu'on cherche avant tout, on trouve avant tout ce que l'on cherche. La relation client. Parmi les premières qualités du libraire figure celle d'aimer les gens, autant au moins que les livres. Souvenons-nous du propos du candidat commis de Walser, « J'aime les hommes, si différents soient-ils ». On dit pourtant que la profession est, a été, composée d'autant de misanthropes que de passionnés du genre humain et qu'elle fut longtemps pénalisée par un accueil des plus froids à ceux qui franchissaient la porte de leurs officines. Pour qui a connu les années 50 et 60, les exemples sont en effet nombreux d'expériences intimidées face aux questions du libraire ou d'angoisse à franchir le seuil de leur boutique. Mais combien possède-t-on aussi de témoignages de rencontres avec la lecture médiatisée par un libraire dans la relation singulière de deux individus qui s'apprivoisent autour d'une passion partagée des livres, témoignages d'écrivains, témoignages de lecteurs dans le souvenir d'émotions d'intensité inégalée. Et plus souvent encore, d'auteurs plus secrets révélés dans l'antre poussiéreuse entre l'incrédulité et l'espoir. Les années d'après la loi Lang sont venues gommer le modèle du libraire omnipotent et solitaire, volontairement exclu des règles économiques de base. Le désir général et générationnel d'ouvrir des portes largement à tous les publics, dopé par la concurrence des GSS, enfin des grandes surfaces spécialisées, en l'occurrence et notamment la FNAC, la culture des lieux, plus moderne, entre guillemets, le travail d'équipe, la multiplication de l'offre, un rapport au livre moins coincé, mais pas toujours, mais aussi et souvent moins cultivé au sens moins érudit, sont venus changer la donne. En 30 ans, le monde de la librairie a amélioré la qualité de son accueil, non seulement par souci de préserver ses clientèles, mais aussi par l'arrivée d'une génération de libraires souvent moins complexés, plus détendus, toujours anxieux mais souriants. Mais qu'en est-il de la médiation? Si la relation avec le lecteur se fait tant bien que mal dans le respect des usages, des conventions et dans une attention soutenue, égalitaire et partagée, si elle s'établit dans un compromis entre le flux permanent des livres à ranger, celui des livres à commander, sur l'ordinateur, aux représentants, et la demande moins prévisible des clients, de toute nature, de toute imprécision, ce qui est hors de l'arrangement social et commercial, donc cette relation plus mystérieuse entre deux lecteurs identifiés mais sans hiérarchie, le vendeur et son client, et qui se solde dans l'acceptation par le client d'une prescription qu'il est venu ou non chercher, Cette relation donc verbale et gestuelle est suspendue au miracle d'un temps disponible, de la réciprocité des désirs et de l'humeur. Quant aux qualités requises pour assurer ce lien fructueux, pour essayer de vous répondre, en fait je ne vous répondrai pas, et sans vouloir me réfugier derrière un poncif un peu daté, elles ressortissent de la bosse du commerce. Elles s'entretiennent aussi en formation par des techniques de relation à l'autre. Sans vouloir non plus se saisir d'une terminologie prise aux sciences de la formation ou plus douteusement au développement personnel, plus de 30 ans en direction d'équipe, l'observation de soi et des autres conduisent à ambitionner que tout libraire interroge en permanence son rapport au savoir, ça me paraît fondamental, son rapport à l'autre, et vous avez employé ce terme, son savoir-être, c'est une chose qu'on doit trouver dans les milieux de la formation. Donc son savoir-être et sa maîtrise culturelle que nous observerons en suivant. Donc la maîtrise culturelle. Depuis la disparition du libraire érudit au XIXe, la profession modernisée s'est ainsi stabilisée autour de deux données majeures. La création d'un lieu, assorti d'une identité forte, architecturale, politique, esthétique, un lieu dans la ville, et d'une équipe exigeant un régime de compétences intellectuelles, culturelles, morales. L'embauche de nos libraires se détermine principalement sur deux appréciations. La première, particulièrement subjective, est une projection sur la relation client. La seconde mêle l'objectivité de réponse à un questionnaire culturel et un regard sur la capacité de curiosité du candidat. Réalisée dans le cadre d'un entretien, souvent long, cette évaluation est toujours déficiente, mais elle souligne l'importance que nous attachons à ce qu'on appellera « maîtrise culturelle ». On entendra ici par ce terme l'idée d'un millefeuille de connaissances qui vont des fondamentaux, des points de repère, des savoirs encyclopédiques, à la lecture d'un quotidien, à celle de magazines culturels, ou bien encore à la fréquentation de musées, de cinémas, de concerts, sans oublier évidemment celle des livres. Ces prérequis sont indispensables à la construction de soi dans l'univers choisi qui est celui du livre. Il faut constater ici plusieurs problèmes. L'insuffisance des formations préalables, souvent techniques et trop peu culturelles, un goût insuffisamment étendu des candidats libraires pour toutes les formes, l'ensemble des formes ou pratiques culturelles, une culture générale trop scolaire, accrue des défauts des formations scolaires, et trop parcellaire, un tropisme très tôt bien établi pour un secteur ou pour un autre auquel on s'arrête. Les libraires des années post-Lang, disons 80-90, se sont souvent établis autour d'une dimension utopique, politique et multiculturelle, et prise, qu'elles étaient de cinéma, de théâtre et de musique, dans une idée vertueuse et engagée de contamination. La ville était encore une cité où logeaient des espoirs. Des espoirs. Modelé pour partie dans la matrice de la joie de lire, la librairie de François Maspero, ce visage s'est estompé, et les librairies sont devenues des lieux moins sérieux, au sens politique, des lieux de convivialité et de partage de passions avant tout littéraires. À l'heure de l'Internet, les cartes sont rebattues. Depuis 20 ans et l'informatisation généralisée de nos commerces, les bases de données, électres en premier lieu, sont venues se substituer aux mémoires de nos libraires. Rien n'est venu combler ce capital, la mémoire, ce capital entamé des savoirs pas toujours utiles, mais qui étaient des preuves de professionnalisme. Les éléments d'une médiation active sont aujourd'hui la capacité de trouver plus vite dans le réseau, de savoir faire le tri, je crois que vous l'avez évoqué aussi. À cet usage, il n'existe pas encore de formation spécifique. Les plus habiles des internautes ne sont pas les mieux qualifiés du métier, mais la manipulation des boussoles est une des qualités actuelles dans la maîtrise culturelle quand elle sait accompagner le repérage de l'objet, de son analyse, brève, mais si possible juste. On observe donc ici une conversion dans l'approche du métier, plus technique que spéculatif. Accepter de trouver l'information avant de pénétrer son contenu, c'est ne pas oublier la figure du commis ancien qui était chargé de faire des colis avec du papier kraft, de la ficelle, des timbres, apprenti aux prises avec la matérialité du livre avant qu'il n'accède à son contenu en ouvrant ses pages. Technique, culture générale, lecture sont les outils qui doivent aider le libraire à prendre des décisions, à acheter, à organiser son assortiment, à l'indexer, à le disposer sur table, en rayon. Si la lecture de la presse, qui suit les publications, est une des conditions de l'harmonie entre savoir-faire et faire savoir, celle de l'information professionnelle est un préalable. Mis à part la lecture de livres hebdo et de son site internet, La médiation s'opère en amont par les représentants, en charge de diffuser les informations sur les nouveautés et d'en prendre des notées. L'accroissement sans limites apparentes de l'offre dans tous les domaines a des répercussions notables dans le cadre limité de nos possibilités économiques. Le choix, c'est-à-dire restreindre, est donc devenu impératif pour répondre non seulement aux exigences d'équilibre, mais aussi pour imposer une différence avec le commerce en ligne, lieu des possibilités apparemment sans limite. Reprécisons ici, s'il le fallait, j'espère que non, que cet illimité n'est qu'apparent. Le service des librairies en ligne n'étant que celui de mettre en lien et d'exécuter dans un délai de 10 à 15 jours des commandes de produits dont la seule propriété est virtuelle, autour d'une médiation purement technique qui convertit la fonction métier en simple moteur de recherche. Une drôle de médiation. Dans ce territoire limité que sera, plus encore qu'il est, le nôtre, chaque libraire devrait arrêter le regard, à capter l'attention, à convaincre son interlocuteur, à le captiver. Une capture en douceur, aux fins de le conserver, de le garder confiant. Le souci de la médiation ici n'est pas exempt d'intérêt individuel et collectif. Mais où ne le serait-il pas? La formation fait ainsi appel à des techniques de vente et de comportement dans l'échange. Nous avons cité plus haut des techniques simples qui distinguent chaque libraire dans chaque librairie. À l'organisation des pistes bibliographiques de tout genre et de toute taille, ouvrant des horizons variés de lecture, hors des feux de l'actualité, à un espace à rendre de plus en plus lisible et raffiné, aux fins de cohérence et de sérieux, il est essentiel d'associer la fantaisie, autre argument commercial. Dans le monde voulu convivial qui est le nôtre, voilà qui peut être caractéristique d'une médiation détendue, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, sérieux comme le plaisir ou plaisant comme le sérieux, un double mouvement à donner dans nos espaces de papier. Le risque du jugement, autre élément. Lors du colloque de Livre 2010, le critique Pierre Lepape, qui est un ami, souligna vivement et avec amertume le discrédit porté par le public au journalisme littéraire et le crédit récent, par trop angélique, donné au jugement des libraires qu'il juge plus partial qu'émancipé. Plus récemment, dans La Quinzaine littéraire, Jean-Jacques Lefrère attaqua sous un angle humoristique cette part inaliénable du métier pour le rabattre sur des fonctions de service et de commerce. La lumière trop crue braquée sur les librairies, menacée de disparition dans des villes de plus en plus déshumanisées, aura renforcé certes l'image de la profession, mais déformé peut-être le contour et les couleurs de ses fonctions. Invités à partager leur fameux coup de cœur dans les médias, les libraires quittent de temps à autre leur rayonnage pour faire de la figuration et proposer, dans le cadre de l'écran, des pistes de lecture. Cette médiation publique durera ce que des animateurs voudront la faire durer. Jamais il ne s'est agi qu'une profession prenne la place d'une autre. Si le journalisme littéraire est discrédité, cela est plus que regrettable et profite largement à une dilution généralisée de la qualité des jugements, ainsi qu'à l'évasion vers Internet. Les critiques sont-ils à même de tirer tous les enseignements d'une telle défiance? Les libraires, quant à eux, pris au jeu, seront-ils suffisamment sobres pour ne pas se laisser griser par la mise en représentation? Le retour à la boutique est le remède probable à ce bourgeonnement dans le spectacle. Les attentes de notre public sont dans le commentaire d'une lecture au moment de sa parution, dans le risque pris à entraîner le lecteur vers un livre inconnu, dans le libre exercice concédé du jugement. C'est entre innocence et certitude que s'aménage ce discours, entre l'écoute et le compte rendu. La position du critique est celle d'un sujet supposé savoir, qui établit son jugement dans la recherche de contexte, d'intertexte, dans un travail d'écriture, donc de création. Celle du libraire est moins statique, plus corporelle, plus fiévreuse. L'engagement des corps dans la relation avec le lecteur n'est pas anodin, ni celui de la voix, de la langue, pas plus que le talent d'improvisation dans l'espace, à passer d'un client à un autre, d'un registre à un autre. Cette faculté propre au théâtre qui conduit peut-être nos libraires sur les plateaux. Ce que je souhaite d'un critique littéraire, écrit Julien Gracq, et il ne me le donne qu'assez rarement, c'est qu'il me dise à propos d'un livre, mieux que je ne pourrais le faire moi-même, d'où vient que la lecture m'en dispasse un plaisir qui ne se prête à aucune substitution. Ce que j'attends de votre entretien critique, c'est l'inflexion de voix juste qui me fera sentir que vous êtes amoureux, et amoureux de la même manière que moi. Je n'ai besoin que de la confirmation et de l'orgueil que procure à l'amoureux l'amour parallèle d'un tiers bien disant. C'est ce risque de s'immiscer entre le lecteur et l'objet de son désir que doit continuer de prendre le libraire sous sa lampe publique, risque qu'il prend chaque jour en acceptant d'être confronté à ce qu'il ne sait pas dans la demande de l'autre. Dans un cadre constitué pour sa plus grande part de livres qu'il n'aura pas le temps de lire et à travers lesquels il cherchera inlassablement ce qu'on lui demande. Faire un lien pluriel entre auteur et lecteur, faire un lien singulier entre œuvre et liseur, autant d'aller et retour d'une communauté à une autre, d'un être à un autre. Dans cet exercice de mise à disposition de son corps et de son âme, et depuis moins de 30 ans, les auteurs n'ont pas chômé non plus. Grac excepté, qu'on s'avait réticente à la chose. De tournée en rencontre ou de festival en salon, l'auteur est devenu son meilleur représentant par l'entremise fréquente des libraires ou des bibliothèques, dont cet exercice est devenu un moteur de l'activité. Pour les libraires, les bibliothèques, nous en parlerons peut-être. Ce sera le dernier élément de mon analyse. Consolider la chaîne. Pour faire face à l'abandon d'une partie de nos lecteurs obstinément pris dans l'usage si pratique d'Internet, mieux vaut mettre l'accent sur la température de nos lieux, leur convivialité, pour de vrai. La présence des auteurs est un atout majeur pour faire la distinction avec le média froid qu'est le réseau Internet. Si ce dernier est d'une forte utilité pour la communication de nos rencontres, de nos débats, si la faculté d'en trouver en suivant sur nos sites la reproduction sonore existe, rien ne rend mieux l'émotion de certaines voix que de les entendre dans le cadre de nos librairies. Nous avons établi une relation suivie et forte avec les auteurs et leurs éditeurs, qui s'est résolue dans l'organisation quotidienne d'échanges médiatisés par un lecteur, un chercheur, un journaliste, un libraire. La reconnaissance s'y joue entre le libraire, l'auteur et les lecteurs. Entre le libraire et l'auteur s'y établit même une relation de solidarité que les débats sur l'économie du livre et sur sa régulation ont renforcée. Quelques témoignages de Jean Rouault, de Daniel Pénac, de Michel Serres rendent particulièrement compte de cela. Cette pratique n'est pas nouvelle, mais elle est aujourd'hui vécue par le public des librairies comme consubstantielle. S'y instruit une politique qui donne à la librairie un caractère de service public dans sa ville et en fait un acteur culturel notable en lien avec ses écrivains, c'est-à-dire avec ceux de sa région, de sa ville, ses universités, ses médias. L'un des aspects discutables en est celui de la rémunération des différents acteurs. Si l'éditeur se rémunère sur d'hypothétiques ventes et sur la promotion de son livre, si le libraire spécule sur la fidélisation de ses clientèles, le médiateur sur le salaire de sa prestation, celui de l'auteur est réduit à une part symbolique et à la culture du risque d'un moment de partage. Se développe depuis peu, par l'intermédiaire des agences du livre, des médiathèques ou des manifestations littéraires, la pratique de la rémunération des écrivains. Ce modèle d'une économie possible pour les artisans et les artistes de la création littéraire, après tout revendiqué par Jacques Attali dans ses propos sur la mutation du droit des auteurs, sonnerait-il le glas de cette pratique de médiation dans laquelle les librairies avaient pris un long temps d'avance? Il me semble que la crise que nous abordons de l'industrie du livre, que la distribution imprévisible encore des rôles qui la composent, vaut une adaptation plus concertée que celle qui est en cours. Le jeu des grands groupes, mais aussi celui des grandes unités encore indépendantes, l'absence des petites structures de l'édition dans le débat, sont les symptômes d'une vision très libérale, dérégulée, qui promeut le plus fort et son droit. L'absence de décision au cercle de la librairie sur le devenir des lectres, les atermoiements sur la distribution des fichiers numériques, sur une législation concernant les échanges commerciaux, de ces fichiers, et notamment l'instauration peut-être d'un prix unique ou pas, sont autant d'appels d'air pour les deux grandes sociétés qui pourraient être les prédatrices d'un univers jusqu'à ce jour hétérogène, composite, diversifié, dont la variété requérait des médiateurs. Les médiateurs nouveaux pourraient être aussi, si on ne s'en méfie, les seuls producteurs. Les feux sont clignotants depuis déjà quelques années. Merci.